Place Info.
Bonsoir à la une. Emmanuel Macron à Épinay qui tente de désamorcer la crise à l'hôpital. Les Français, les gilets jaunes, le détail de notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Avantage Gérard Collomb face à David Kimmelfeld pour les municipales à Lyon. C'est notre sondage ce soir. Ipsos Soprasteria, France Info, France Bleu et Le Progrès. Thierry Breton, ça passe pour lui, nommé commissaire européen. Tout ça, c'est dans les informés avec Véronique Reilsoult, présidente de Dentsu Consulting, avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe EBRA, auquel appartient Le Progrès de Lyon, avec Olivier Perroux, journaliste politique à l'hebdomadaire Le Point, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous sommes ensemble, bonsoir à tous les quatre au passage.
Bonsoir Jean-Louis.
Jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron, 8 mois après le démarrage d'un mouvement de contestation qui va grandissant dans les hôpitaux, a donc promis des décisions fortes. Le chef de l'État qui s'est exprimé en pleine visite de terrain à Épinal, alors que les personnels hospitaliers manifestaient à Paris et partout en France.
J'ai demandé au gouvernement, à la ministre de la Santé, à plusieurs de ses collègues et sous l'autorité du Premier ministre, de travailler avec vigueur pour un plan d'action renforcé et des décisions fortes qui seront annoncées par le Premier ministre au sortir du Conseil des ministres de mercredi prochain. Ces décisions redonneront des marges de manœuvre financières, plus de moyens, mais pas seulement. C'est un plan, là aussi, beaucoup plus large qui doit répondre à la situation actuelle. Nous devons investir et assumer d'investir plus fortement que nous n'avions au début envisagé de le faire, parce que la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée.
Voilà donc Emmanuel Macron à Épernay. Merci à vous Gilles Bornstein. Tiens, vous avez la main. Il était temps qu'il s'exprime.
On disait que le président de la République n'aimait pas parler sous la pression. Manifestement, il a changé d'avis parce qu'il parle sous la pression. Il parle même le jour de la pression. Il parle d'hôpital, le jour où le personnel hospitalier est dans la rue. On a aussi dit que l'acte 2, c'était beaucoup de j'écoute, je vais doucement, je fais avec les Français. Mais j'ai surtout l'impression que l'acte 2, c'est j'arrose. Je donne de l'argent. Ouais. Parce qu'il a donné de l'argent pour sortir des gilets jaunes. Alors là, c'est le Premier ministre qui dira à qui et combien mercredi. Mais enfin, moi, je l'ai écouté en direct. On a bien compris qu'il y aurait de l'argent. Il y aurait de l'argent pour les salaires. Il y aurait de l'argent pour les services. Il y aurait de l'argent pour l'investissement en matériel. Je ne sais pas combien ça fera au total. Mais il a quand même demandé beaucoup d'argent. Alors, le président de la République était quand même assez soucieux de l'équilibre des finances publiques au début du quinquennat. Là, il l'est moins. Vraisemblablement, il trouve que c'est plus facile de s'arranger avec Bruxelles à la fin des fins que de s'arranger avec Jojo Gilets Jaunes.
Bye bye les 3%, quoi.
Bye bye les 3%, et manifestement...
Il l'a dit d'ailleurs dans son interview aux économistes.
Exactement. Hein, mais Bruxelles, on se débrouille toujours. La contestation sociale, c'est plus compliqué.
Olivier Perroux.
Il y a une volonté un peu de pompier pyromane chez Emmanuel Macron dans cette affaire des hôpitaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, quand on discute du projet de loi de finances, quand même, il y a cette histoire d'objectifs de dépenses fixées par l'hôpital qui a été revu à la baisse à 2,1% par rapport à la dernière, le fameux ONDAM.
Oui, ça a été voté en première lecture. Ça,
exactement. Hein. Et les députés, à plusieurs reprises, ont alerté en disant que c'était pas assez 2,1%, qu'il fallait hausser et fallait augmenter ça pour pouvoir justement envisager des hausses de salaire. Et Agnès Buzyn, à ce moment-là, elle dit non. Et le gouvernement, ils disent non parce qu'ils sont dans une logique Bercy de faire attention à la dépense publique. Mmh. Et là, patatras. Du coup, là, on est dans la version pompier. Ce que je viens d'expliquer, c'était la version pyromane. Et là, on est dans la version pompier où on dit, justement, comme vous disiez assez justement, qu'on distribue et on arrose.
Nathalie Moret, le chef de l'État qui a horreur d'agir sous la pression. Là, vous pensez quand même qu'il est conscient qu'il y a des milliers aujourd'hui de blouses blanches, de blouses bleues dans la rue?
Moi, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est important parce que de mémoire, je crois que c'est la première fois où il parle le jour où il y a une manifestation. Et ça, c'est absolument une première et ça signe un changement considérable. Jamais, il avait toujours dit qu'il ne le ferait pas. Là, il le fait. Et il le fait dans un contexte particulier, puisque aujourd'hui, 14 novembre, c'était la première grosse manifestation qui en annonce d'autres. Donc le fait qu'il prenne la parole ce jour-là, qu'il dise « voilà, j'ai compris », et d'ailleurs, il fait quand même un mea culpa, ce qui là aussi n'est pas si fréquent que ça, hein, ce qu'il dit « j'ai compris qu'on devait faire plus que ce qu'on avait prévu qu'on ferait.
Parce qu'en fait, il nous annonce pour Agnès Buzyn surtout. Oui. Il dit bah voilà, il y a eu un plan qui a été prêt. Oui. Manifestement, ça n'a convaincu personne. Les 100 euros d'augmentation et le plan de refondation de l'hôpital. Je trouve qu'en creux, il fait un mea culpa. Vous avez raison, mais il critique sa ministre de la Santé, dont il dit très clairement bah, ce qu'elle a fait jusqu'à présent n'a pas suffi à sortir de la crise. Donc maintenant, moi, je prends la parole et je la donne à mon Premier ministre.
Qui annoncera donc des choses à l'issue du prochain Conseil des ministres mercredi prochain.
Justement, j'ajoute que s'il annonce qu'il va annoncer, grosso modo, enfin, du moins que c'est Édouard Philippe qui va annoncer.
Oui, mais quand même, il met des mots forts.
Le fait de l'annoncer aujourd'hui, c'est quand même justement parce qu'il Véronique Rel-Soult, qu'il y a du monde dans la rue.
Il y a du monde dans la rue, et puis il ne faut pas oublier que la santé, c'est le sujet de préoccupation principale des Français avec le pouvoir d'achat. C'est un vrai sujet important. Ensuite, c'est une population que les Français soutiennent, les infirmiers, les aides-soignants, le personnel de santé. C'est un personnel
soutien inconditionnel.
Inconditionnel, parce qu'il fait partie de la vie des uns et des autres. C'est un vrai sujet de préoccupation. Donc, beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de discussions, un sujet de préoccupation. C'est sans doute l'une des explications pour lesquelles, cette fois-ci, il agit et il parle dès le début. Et il fait bien, parce que quand on regarde, rien que sur la journée, plus de 85 000 messages sur la santé et la préoccupation autour de la santé.
85 000.
Juste aujourd'hui. Donc on voit que c'est un vrai sujet de préoccupation. Et puis, on a vu le mouvement dans la rue qui était suivi. Énormément de commentaires sur les réseaux sociaux aussi, de films, enfin...
J'ai rencontré un ministre à midi, on ne savait pas encore qu'il allait parler, enfin c'est tombé, l'annonce de sa prise de parole est tombée pendant le déjeuner, mais donc avant même qu'on le sache, il disait que clairement, les annonces sur le plan santé étaient prévues évidemment pour désamorcer sur la santé, mais surtout pour désamorcer pour le 9 décembre, pour que de toute façon, autant que faire se peut, que au moins les personnels de santé n'aient pas ou n'aient plus de raison de rejoindre les autres.
Voilà, maintenant,
ils le disent très clairement, ouvertement au gouvernement.
Nous allons rester sur le sujet de l'hôpital. Je rappelle donc que le président de la République était en visite à Épernay, non pas à Épinay, je ne sais pas, une sorte de nostalgie du congrès ancien. Allez, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
9 départements placés en vigilance orange par Météo France, 7 pour neige-verglas entre la Loire et l'Isère et 2 pour pluie, inondation et vagues submersion dans le sud-est, en cause les fortes chutes de neige et les orages qui frappent actuellement les départements. Il dit avoir entendu la colère et l'indignation. Emmanuel Macron promet un plan d'urgence pour l'hôpital dévoilé mercredi par Édouard Philippe. Une annonce face à la mobilisation d'ampleur du personnel hospitalier cet après-midi avec des défilés à Paris, Lyon ou encore Toulouse. Il avait été lynché sur les berges du canal de l'Ourcq à Noisy-le-Sec en banlieue parisienne. Le corps d'Olivier Tonnier a été retrouvé une semaine après sa disparition. Une information de nos confrères de France Bleu Paris. État d'urgence décrété à Venise, annonce du gouvernement italien après la pire marée haute dans la cité en 53 ans. Mardi, l'eau avait recouvert la place Saint-Marc avec des dégâts d'ores et déjà chiffrés à des centaines de millions d'euros. Les Bleus valident leur ticket d'entrée pour l'Euro 2020 et sans jouer. Conséquence du match nul il y a quelques minutes entre la Turquie et l'Islande 0-0. L'équipe de France affronte dans moins d'une heure la Moldavie pour décrocher la première place du groupe.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquilini.
Alors sauver l'hôpital, hein, c'est alléger les urgences, moderniser l'outil, mettre les moyens, booster les soins ambulatoires, la médecine de ville. Il y a tant à faire. La hausse du budget global de l'hôpital, et Olivier Perroux le rappelait tout à l'heure, c'est 2,1% pour 2020, votée donc en première lecture à l'Assemblée nationale, jugée insuffisante. Il faut en mettre plus sur la table, estimé ce manifestant rencontré dans la manif aujourd'hui à Paris.
Conditions de travail aujourd'hui, on manque d'investissement, manque de matériel, manque de personnel, la situation n'est plus tenable et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a déjà passé en première lecture prévoit donc une augmentation de 2,1% alors qu'on sait très bien qu'il faudrait minimum 5%. Donc ça veut dire que c'est encore l'austérité pour 2020 et aujourd'hui on est à l'os au niveau de nos établissements, on n'en peut plus. Épuisement professionnel, burn-out, cette situation n'est plus tenable.
Nathalie Morel, les arguments sont très audibles, hein, mais 5% c'est beaucoup. Ce témoin nous dit on est à l'os, mais le problème c'est que le budget de la France est également à l'os.
Oui, mais même admettons que l'argent pleuve comme ça sur l'hôpital, on voit que c'est pas le seul ressort pour que l'hôpital aille mieux. Il manque 30% à peu près d'effectifs dans certaines spécialités, notamment je crois les radiologues. Même si vous faites pleuvoir comme ça de l'argent sur l'hôpital, ils sont pas là. On n'a pas les radiologues pour faire fonctionner l'hôpital. Donc ça crée des files d'attente monstrueuses dans le privé, etc. Je pense que quoi qu'on fasse, ça va mettre du temps à s'organiser. D'ailleurs, le président Macron l'a redit cet après-midi. Donc oui, la solution sera financière, mais pas seulement.
Pas que l'argent, Olivier Perroux. Hein, la seule revalorisation des 300 euros, c'était un peu l'exigence de départ hein, pour le 1 200 000 fonctionnaires de l'hôpital. C'est une hausse de 9 milliards d'euros par an. Quel serait donc ce plan miracle pour sauver l'hôpital? Et vite.
Eh ben, c'est une très très bonne question
parce qu'il y a un problème aussi de temps.
C'est impossible. 9 milliards par an, c'est impossible. Pourquoi? Parce que il y a un an, Emmanuel Macron a sorti 17 milliards pour les gilets jaunes. C'est-à-dire que il a deux choix. Emmanuel Macron, c'est soit d'arroser, comme on utilisait l'expression tout à l'heure, mais de continuer d'arroser et finalement de faire un énorme virage à gauche, comme certains présidents ont pu le faire, dans d'autres quinquennats. Et justement, c'est ça. Il est tiraillé entre l'ancien monde, c'est-à-dire arroser pour calmer la crise sociale, ou justement apparaître comme un nouveau réformateur et y aller franco.
Gilles Bernstein.
9 milliards pour les seuls personnels médicaux, c'est impossible, parce que les gilets jaunes, vous l'avez cité, mais les gilets jaunes, c'était transversal. Oui. Là, s'ils donnent 9 milliards aux personnels médicaux, 6 mois plus tard, il est obligé de donner exactement pareil aux flics, exactement pareil aux profs. Ça me paraît complètement impossible en termes d'appel d'air et de signal donné.
Allez, on va rester sur la crise sociale, hein, la crise sociale qui peut-être s'étend à d'autres domaines. Justement, tiens, puisque vous parlez des gilets jaunes, nous allons dérouler, comme promis, notre enquête au Doxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, enquête réalisée hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes par Internet. Les Français, pensent que le mouvement des gilets jaunes leur a profité et a servi les catégories populaires, l'analyse de Gaël Sliman, le président de Doxa.
Les gens nous disent, ce mouvement, finalement, ça a été une bonne chose pour moi, à titre personnel, égoïste, individuel, j'en ai bénéficié. C'est sans doute l'enseignement clé du sondage d'ailleurs, c'est le fait que 58% des personnes interrogées nous disent « ça m'a profité ». On a une France d'en bas, une France périphérique, une France qui se sentait oubliée, qui nous dit pour les deux tiers d'entre elles j'en ai profité. 67% des Français au plus bas revenu le disent. Et inversement, Jean-François, les catégories aisées, la France urbaine, la France qui va bien, elle estime que elle a dû payer les pots cassés de ce mouvement. Donc c'est vraiment ça l'enjeu fondamental qui explique qu'aujourd'hui encore, même si les gens n'ont pas envie que ça se prolonge, ils nous disent ça a été bien ces gilets jaunes.
Véronique Reilsoult, le discours, le regard des Français a changé.
Il a oscillé. Au tout début, il y avait un fort soutien. Il y a eu un moment une forme de rejet particulier au moment où il y avait des violences et où ça allait trop loin. Aujourd'hui, avec du recul, un an après,
une forme de décantation.
Les gilets jaunes sont devenus une forme de symbole de tout combat sur le pouvoir d'achat. D'autant que pour 7 Français sur 10, ce mouvement, il était justifié. A posteriori, quand ils le regardent, ils disent finalement, c'était justifié. Alors, je sais pas si tout le monde trouve qu'il en a tiré autant des bénéfices personnels, mais on a quand même globalement 71% des gens qui trouvent que ça a eu un impact positif pour les plus modestes, donc c'est plutôt bon. 60% des gens qui trouvent que ça a eu un impact positif sur la démocratie et le débat en France, mais il y a quand même du négatif qui est de dire 65% trouvent que ça a plombé l'économie, 73% trouvent que ça a plombé l'image de la France à l'étranger.
Mais donc ça va totalement à contre-temps de ce qu'on a pu dire il y a 30 secondes sur la crise du... Je crois que la crise des gilets jaunes, assez bizarrement, explique ce qui est en train de se passer actuellement. La crise des gilets jaunes, pour moi, elle a créé des frustrations dans d'autres corps sociaux. C'est un peu ce que vous expliquez tout de suite, Gilles Bernstein. C'est-à-dire que il y a des gens aujourd'hui qui se disent, mais finalement, c'était pas massif les gilets jaunes. Il n'est pas marqué par le nombre de personnes dans la rue, mais par la longueur. Finalement, ces gens ont obtenu 17 milliards, un chèque de 17 milliards.
En cassant tout.
En cassant tout, et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, pourquoi pas moi? Et c'est ce qui va arriver finalement le 5 décembre, c'est plein de morcellements de différents corps sociaux Les Français n'ont pas forcément envie de défendre les cheminots, mais ils sont attachés à l'hôpital public.
Vous dites donc qu'il y a un mouvement classique qui se dessinerait,
qui se crée sur la frustration,
qui reprendrait la main
et qui se base sur une frustration.
Il y avait un autre critère aussi sur ce mouvement des gilets jaunes, qui est que c'était des gens qui ne descendaient pas habituellement dans la rue, qui tout d'un coup se sont exprimés. Et donc ça joue aussi sur le fait qu'on a l'impression que ça a changé les choses, que désormais, quand on n'est pas content, on peut l'exprimer. Alors de façon non violente, a priori, en tout cas c'est ce que les uns et les autres plébiscitent, mais voilà, on peut maintenant s'exprimer et on a peut-être une chance d'être écouté. En tout cas, on se laisse pas faire, on dit quand ça ne va pas, et si on revient à l'hôpital, on le dit d'autant plus quand on est soutenu par l'ensemble de la population, qu'on a des éléments concrets, parce qu'il faut voir aussi que le résultat de cette enquête, c'est aussi parce que les uns et les autres ont partagé de façon très précise leur précarité, la réalité de leur quotidien, avec des témoignages très concrets. Donc c'était pas simplement des revendications qui semblaient loin du quotidien des uns et des autres, c'était très concret.
Gilles Bernstein, allez-y.
Moi, j'adore les sondages de Véronique parce que ça nous ramène. C'est souvent contre-intuitif. Et là, j'avoue que je suis complètement dérouté parce que.
Vous le trouvez, c'était ma question, en fait. Vous le trouvez aussi un peu contradictoire. Vous dites contre-intuitif.
Parce que nous, on entend à longueur de journée des gens qui nous disent, mais c'est rien. C'est une aumône. C'est indécence qu'on nous donne. C'est pas assez. Ça ne changera rien. Il a rien compris. Il n'a rien
compris. Parce que 17 milliards subdivisés par des millions et millions de Français, c'est pas beaucoup au bout du voyage.
Mais en même temps, quel autre mouvement social peu nombreux.
Je suis d'accord, mais on a l'impression que les gens ont le sentiment qu'ils n'en ont pas profité du tout. J'étais certain que c'était le sentiment des gens.
Et
la Véronique nous dit non, c'est l'inverse. Les gens sont bien conscients qu'ils ont obtenu des choses. Donc c'est très bien parce que ça nous force à se dire que finalement notre vision sur la France n'est pas la bonne.
Il y a quand même une hausse du SMIC via la prime d'activité quand même pour les plus précaires. Il y a eu pour les salariés, certes, c'est pas tous les Français, mais il y a quand même eu une prime défiscalisée en fin d'année dernière. Tout ça, quand même, ça compte.
C'est du concret, ça.
C'est du concret. L'annulation de la hausse de la CG, de la CSG pour les retraités qui avait été un des déclencheurs, ça aussi, ça compte. Donc c'est de l'accumulation de petites choses qui font que finalement, le pouvoir d'achat des gens, même si c'est pas massif, a augmenté.
Nous allons rester sur la perception un an plus tard du mouvement des Gilets jaunes par l'opinion publique. On marque une petite pause, 20h20 sur France Info et le rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Ils réclament davantage de moyens et d'effectifs. Journée de mobilisation des personnels hospitaliers dans les rues de plusieurs grandes villes. Ils étaient environ 10 000 à Paris. Emmanuel Macron, lui, promet un plan d'urgence pour l'hôpital dévoilé mercredi prochain. C'est une très bonne nouvelle. Réaction de l'Élysée après la validation de la candidature de Thierry Breton au poste de commissaire européen au marché intérieur et au numérique. L'approbation avait manqué à la précédente candidate française Sylvie Goulard. Où est passé le coffre-fort d'Alexandre Benalla? Question confiée à un juge d'instruction. La justice tente de savoir si des preuves ont pu être dissimulées. Le coffre-fort avait mystérieusement disparu avant la perquisition du domicile de l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Le mouvement des Gilets jaunes justifié pour près de 7 Français sur 10. Résultat du sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Une majorité d'interrogés estiment même que le mouvement a plutôt été une bonne chose pour eux. Une fusillade dans un lycée de Santa Clarita au nord de Los Angeles. Le tireur a été interpellé. L'une des victimes touchées est décédée des suites de ses blessures. 3 autres personnes restent hospitalisées.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Véronique Reilsoult, cette enquête Odoxa Dentsu Consulting sur les Français, les Gilets jaunes pour France Info, Le Figaro, vous diriez satisfaction ou lassitude ? Un peu les deux.
Disons que, en fait, comme ils sont devenus un symbole du combat, la lassitude, elle était sur le fait de les voir tous les week-ends dans la rue.
De manière factuelle,
et se dire, bon, on est reparti pour un week-end de plus, et puis le nombre diminuait, et ça devenait vraiment lassant, les commerçants s'en plaignaient, voilà. Après, quand on revient un an après, qu'on a un peu de recul, qu'il n'y a plus tous les week-ends ces mouvements, on se dit, finalement, les Français sont non pas satisfaits du mouvement, ça serait exagéré, ils disent, dans le fond, c'était utile, dans le fond, ça a pointé des choses, et quand tout à l'heure vous disiez, bah, c'est étonnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est devenu une espèce d'épée de Damoclès perpétuelle. C'est-à-dire que dès qu'il y a un début de quelque chose qui va pas, hop, on se dit, oulala, pourvu que ça ne refasse pas un coup de gilet jaune, pourvu que. Donc, en fait, les Français ont l'impression d'avoir profité un peu des mesures qui ont été annoncées et se disent, attention, à tout moment, ça peut repartir. Mmh. Et la perspective, d'ailleurs, des grèves annoncées le 5, on voit bien, le nom des gilets jaunes est recité dedans régulièrement.
Oui, Nathalie Moret, alors justement, ces 17 milliards, c'est une somme, hein, le rappelait à l'instant Olivier Perroux. C'est aussi, peut-être, comme nous le disions aussi autour de cette table, quand on la subdivise par des millions de Français, ce n'est peut-être pas forcément spectaculaire au bout du voyage. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela, au fond, la satisfaction de certains d'avoir pu s'opposer au pouvoir en place?
Je pense qu'il y a eu, très honnêtement, pour avoir suivi d'assez près les manifestations l'an dernier, il y a eu deux moments dans les Gilets jaunes. Il y a eu un premier mouvement jusqu'à, on va dire, fin janvier, où vraiment s'exprimaient des gens qui avaient pas vraiment beaucoup de problèmes financiers. Moi, ce que j'ai vu sur les manifestations parisiennes, c'était rarement des précaires. Mais c'était des gens qui avaient peur du déclassement, qui avaient peur de perdre leur emploi, qui avaient peur de d'être déclassés. C'était cette France moyenne, j'allais dire middle age, 30, 50 ans, pas jeune, pas très vieille. Mmh. Et ensuite, à partir du début de l'année, le mouvement s'est politisé. Et là, effectivement, il y a eu cette envie d'en découdre, de faire plier le pouvoir, de dire que ça n'allait pas, et de se payer le pouvoir en place, clairement, en l'occurrence, Emmanuel Macron, c'est lui, mais ça aurait pu être d'autres choses. Il y a vraiment eu, j'ai le sentiment en tous les cas, pour l'avoir observé à Paris, et c'est peut-être différent en province, qu'il y a eu ces deux moments-là, et contre la peur du déclassement, on ne peut pas grand-chose. C'est quelque chose qui est très subjectif.
Olivier Perroux, vous avez vous aussi la sensation qu'au fond, un certain nombre de Français se sont payés Emmanuel Macron à travers ce mouvement des Gilets jaunes, disons les choses clairement.
Oui, ça a été un catalyseur de beaucoup de colère, déjà du péché originel de l'ISF, évidemment, ça lui a été rappelé, et ça va revenir, vous allez voir. Il y a un sondage à la rentrée qui était sorti en disant qu'il a plus cette étiquette de président des riches, mais je vous parie que le 5 décembre, ça va revenir, il y aura des nouveaux écriteaux, cette épée de Damoclès, elle revient toujours. Donc, de fait, il y a des gens qui ont voulu se payer Emmanuel Macron, mais c'est surtout que le mouvement aussi des Gilets jaunes est né parce que les syndicats, notamment, et les corps, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, n'avaient plus aucune prise sur ces middle age, sur ces déclassés. Et on a bien vu qu'au début du quinquennat, Emmanuel Macron a beaucoup travaillé à casser un peu ces corps intermédiaires. Et ça a été, d'ailleurs, il a toujours assumé. Et là, aujourd'hui, il en a besoin pour pas revivre ça, ces gilets jaunes. Et c'est assez étonnant de noter que justement il est en train de changer totalement sa façon de faire, sa façon de gérer une crise sociale.
Alors dans les leçons hein, du sondage, je parle sous votre autorité, Véronique Helsoult, les deux tiers des Français pensent qu'Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas assez tenu compte de ce mouvement. Traduction.
Traduction, c'est que en fait, ils considèrent que derrière finalement dans les revendications, il y a eu ces fameuses mesures financières qui sont finalement plutôt bien perçus, mais que ils attendaient à ce que ça aille plus loin sur certains sujets, sur la transition écologique par exemple, sur un certain nombre de primes, sur un certain nombre de statuts, et puis ça résonne avec la réalité des revendications qu'il y a depuis, où on peut se demander si finalement les gens n'imaginent pas qu'on aurait dû les anticiper et les entendre, parce que la colère sur la santé par exemple, elle n'est pas récente, donc finalement, se dire que il aurait pu sans doute aller encore plus loin, et pas que sur des sujets pécuniaires d'ailleurs, ça peut être aussi des organisations, d'autres modes d'appréhension des problématiques, sachant que 60% aussi des Français trouvent que ce mouvement a permis aussi, enfin en tout cas a eu un impact positif sur la démocratie, ça rejoint ce que vous disiez, c'est la capacité que les uns et les autres ont eu de pouvoir s'exprimer.
Même si Gilles Bornstein, au fond, il y a eu le grand débat national qui a calmé le jeu à l'époque, mais là, tout ce qui est de l'ordre de la démocratie participative, des référendums d'initiative populaire, tout cela a fait pchit quand même.
Ah ben il a rien là-dessus, il a rien cédé du tout, si ce n'est le conseiller écologique, je ne sais plus comment ça s'appelle, le symposium de 150 personnes qui sont censées...
Qui se réunit demain d'ailleurs.
Qui se réunit demain. Et ça, il va avoir... Je ne sais pas si ça va être un problème ou une solution pour lui, mais manifestement, le gouvernement n'a pas énormément de prise sur ce qui s'y dit. Non. Il va y avoir des propositions. De mémoire, à sa conférence de presse, Emmanuel Macron avait dit qu'il s'engageait soit à soumettre au référendum, soit à proposer à l'ordre du jour des assemblées...
Soit décret.
Soit décret les propositions qui seraient faites... Et donc, je le vois mal. Enfin, ça serait compliqué pour lui, une fois qu'il a dit ça, de dire « Non, je ne le fais pas ». Donc, on ne sait pas ce qui va sortir de ce... Comment ça s'appelle ? Conseil écologique. Voilà, mais de toute façon, Emmanuel Macron va devoir le prendre en compte. C'est la seule mesure de démocratie directe qu'il a retenue.
Allez, nous marquons une pause. Nous restons sur ce climat social dans la deuxième partie des Informés. Dans quelques minutes, après le rappel de la météo et des infos, on se retrouve pour la suite des Informés de France Info.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export. Un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, mangete de Marc. Commercial memrek la bagay. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Vous vous développez à l'étranger? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés.
VIE. L'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659.
Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards reversés chaque année à la collectivité.
Entrez dans l'histoire. Entrez dans le capital de FDJ.
Devenez actionnaire jusqu'au 19 novembre.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque, dont le risque de perte en capital, figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF. Disponible sur le site internet de la société et de l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions de Météo France avec vous, Élodie Calac.
Attention à la neige entre Rhône-Alpes et le sud de la Bourgogne. La neige tombe jusqu'en plaine. On attend des quantités conséquentes sur les départements en vigilance orange. La couche de neige pourra atteindre 10 cm jusqu'à 20 à 30 localement, plus sur les premières hauteurs. Vers la Côte d'Azur, attention aux fortes pluies ce soir, aux inondations et aux risques de submersion sur le littoral. Demain, des pluies circuleront du nord-est vers le centre, l'Île-de-France et le nord, puis jusqu'à la Normandie et à la Bretagne. Du nord de Rhône-Alpes au Val-de-Saône, il neigera encore un peu le matin. Sur le reste du pays, pas mal de nuages, quelques averses aussi sur les Pyrénées, en Corse avec de l'orage. Et puis autour de la Méditerranée, quelques averses l'après-midi. Les températures baisseront, moins 2 à 4 degrés le matin, 4 à 10 l'après-midi.
Sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir, mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Le football est, avant même d'avoir joué, la France qualifiée pour l'Euro 2020 grâce au match nul entre l'Islande et la Turquie, 0 partout tout à l'heure. La Turquie est également qualifiée, mais les Bleus peuvent lui ravir la tête du groupe ce soir en cas de succès contre la Moldavie au Stade de France. Match à partir de 20h45. Les blouses blanches dans la rue, les médecins et les soignants ont manifesté ce jeudi pour réclamer un plan d'urgence pour l'hôpital public dans plusieurs grandes villes. Ils réclament une hausse des effectifs, la réouverture des lits fermés, de meilleurs salaires. À Paris, les manifestants étaient 10 000. D'après les organisateurs, ils sont partis de la maternité Port-Royal dans le sud de la capitale avant de se diriger vers le Sénat, l'Assemblée nationale et Matignon. Toutes les professions de la santé ensemble dans la rue, ce dont se félicite le collectif Interhôpitaux, une des organisations hors syndicat présentes dans la manif. Sophie Crozier est neurologue à la Pitié-Salpêtrière.
Il y a une grande cohésion, moi, je pense, de ce mouvement qui est vraiment pas sur des revendications catégorielles, qui n'est pas un mouvement syndical, qui n'est pas un mouvement politisé du tout. Et la seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir des moyens pour faire fonctionner l'hôpital public et garder notre merveilleux hôpital public. Parce que si on est là, c'est parce qu'on y croit et c'est parce qu'on y est attaché.
Le mot d'ordre de cette manifestation, c'est sauver l'hôpital.
Exactement.
Il est en danger.
Ah oui, il est en danger. Ben, les conditions de prise en charge se sont énormément dégradées ces dernières années. On fait encore tout ce qu'on peut pour assurer la sécurité. Mais on n'a plus de temps pour être auprès des patients, leur tenir la main dans les situations où ça serait nécessaire, pouvoir parler, enfin du côté humain, là, on est dans des situations hyper difficiles, on finit par faire des choses que nos valeurs réprouvent, si vous voulez. C'est hyper difficile, en fait, de fonctionner et de travailler dans ces conditions-là.
Sophie Crozier, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, au micro France Info de Solène Lehen. Et puis le Sénat rejette ce soir le projet de budget de la Sécurité sociale. Pour l'an prochain, les élus à majorité de droite protestent contre un mépris d'Emmanuel Macron après ses annonces sur l'hôpital. Le projet de loi sera examiné en nouvelle lecture au Sénat à la fin du mois, après être repassé à l'Assemblée. Eux dénoncent un climat social jamais vu avec avec une réelle souffrance au travail. Les agents des finances publiques étaient également appelés à battre le pavé contre le projet de réorganisation de leurs services. 30 à 40% étaient en grève selon leur syndicat. La justice annonce qu'elle va réexaminer la validité du non-lieu dont a bénéficié l'an dernier Gérald Darmanin. À décision de la Cour de cassation, le ministre des Comptes publics est accusé par une femme d'un viol en 2009. Des lions, des éléphants et des singes, ce sera bientôt fini. La ville de Paris s'engage à ne plus donner aucune autorisation d'installation aux cirques qui présenteront des spectacles avec des animaux sauvages. La mesure entre en vigueur dès l'an prochain. La décision ravit les défenseurs des animaux, mais pas certains circassiens qui se disent prêts à riposter. L'étranger, écoles et universités fermées à Hong Kong pour le 4e jour consécutif. L'ancienne colonie britannique est paralysée par des barricades et des rassemblements des manifestants pro-démocratie. Et les informés, ça continue.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
L'acte 2 des informés de France Info avec Véronique Reilsoult, présidente de Dentsu Consulting, avec Nathalie Moret, journaliste politique au bureau parisien du groupe Hébra, auquel appartient Le Progrès de Lyon, avec Olivier Perroux, journaliste politique au magazine Le Point, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Emmanuel Macron peut-il apaiser la colère? La question est posée aujourd'hui. Le chef de l'État, donc toujours en visite à Épernay, a eu ces mots dans la foule. « Je ne veux pas avancer dans la division, je ne veux pas rester dans l'inaction ». Emmanuel Macron qui est revenu sur la vague de mécontentement qui monte.
Ah, je l'ai senti, je vous rassure, vous étiez avec moi dans la rue. Non mais pas beaucoup de monde ne l'avait senti non plus. Parce que c'est le propre d'un phénomène social qui d'un seul coup s'embrase. Il y a beaucoup de gens qui ont refait le tiercé avec le résultat des courses. Hein. C'est toujours facile, il y a des gens qui vous expliquent comment ils avaient bien parié dans la cinquième une fois qu'elle est terminée depuis 2 mois. Donc je prends toujours ces conseils-là, c'est formidable. Si les gens avaient vu venir, ils auraient été à ma place. Donc très sincèrement, il y a eu un mécontentement qui venait de très loin, qui était la souffrance de territoire, la souffrance sociale, de l'incompréhension. Je pense qu'on y a répondu avec beaucoup de respect républicain, d'ailleurs grâce et avec les maires. C'est aussi pour ça que je voulais venir dans la mairie d'Épernay pour aussi continuer ce travail qu'on a fait au moment du grand débat. Et puis moi je suis très vigilant, mais je distingue ce qui est une colère qui vient de très loin, à laquelle pour parfois on a apporté des réponses l'année dernière, avec des choses très concrètes, sur le pouvoir d'achat, sur l'école, sur les services sociaux. De ceux qui ont pour projet politique le désordre, qui ont perdu au présidentiel face au projet que je portais et qui auront à se représenter aux autres élections. Et puis on verra s'ils gagnent.
Donc Emmanuel Macron qui évoquait donc les gilets jaunes et le mécontentement en général, Olivier Perroux, le gouvernement est face à un vrai risque de menace de contagion sociale. C'est vous qui disiez ça tout à l'heure.
Oui, alors il y a une... on utilise beaucoup le mot de coagulation en ce moment dans la presse. En tout cas, c'est ce que me disait un ministre ce midi. Il y a un amoncellement de plein de petits morceaux de colère qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui, ensemble, peuvent créer un mouvement social qui...
Oui, on dit contagion, convergence...
Exactement. La fameuse convergence des luttes, oui. Mais c'est quelque chose de d'autre. Là, c'est vraiment, sur une journée, le 5 décembre, plein de les cheminots, les étudiants, on a vu hier, les hôpitaux aujourd'hui, qui viennent manifester pour, voilà, justement, contre le gouvernement. Donc ça ressemble beaucoup aussi à 95, aux manifestations de 95. Donc ça fait peur, c'est avant les fêtes. Il y a une vraie peur dans les rangs du gouvernement de ce 5 décembre. Et la prise de parole aujourd'hui d'Emmanuel Macron, puis la semaine prochaine d'Édouard Philippe, ça va se multiplier tout ça. Ils vont être sur le terrain pour justement jauger et apporter des réponses pour éviter que ça se coagule trop, justement.
Oui, alors Nathalie Moret, il y a eu ce commentaire ce matin, c'est sur France Info, tiens, de Raymond Soubi, conseiller social bien connu, qui a dit « L'État s'est décidé, mais ne sait pas embarquer les gens dans les réformes ». Il y a un problème d'explication, de...
Moi, j'ai un baromètre là-dessus qui est assez simple. Moi, je travaille donc pour la presse quotidienne régionale. Et quand, dans la même semaine, j'ai plusieurs ministres qui appellent directement la rédaction parce qu'ils ont plein de choses à se dire, je me dis que franchement, ça va pas bien.
C'est quel feu ?
Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il y a plusieurs ministres, en tous les cas voilà, importants, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de nous rencontrer, qui ont envie de décrypter leur travail. Donc oui, ça veut dire qu'il y a un déficit d'information et puis il y a aussi, enfin, de pédagogie au sein du gouvernement. Puis ça veut dire aussi qu'ils sont en opération déminage avant le 5 décembre dont vous parlez, Olivier, qui est à tous les étages. Ça va se passer la semaine prochaine, mardi, au Congrès des maires, que Emmanuel Macron, il avait dit qu'il irait tous les ans, il n'y est pas allé l'année dernière, il va y aller cette année, ça va être une une opération des minages justement très très importante frontal, vis-à-vis, hein, vis-à-vis frontal, des territoires. Il y aura à suivre d'ailleurs la confrontation entre François Baroin et Emmanuel Macron qui ne sera pas les plus inintéressantes. Et puis c'est valable dans beaucoup de secteurs, dans le secteur des étudiants, etc. Les ministres ont envie de parler et ça veut dire qu'effectivement...
Et ils ont peur. Et Gilles Manstein, est-ce que la méthode c'est de déminer point par point, si
exactement.
Je puis dire
Exactement. Ils ont peur. Roger Gicquel disait la France a peur, mais là c'est vrai que le gouvernement a peur. Ils ont peur parce qu'en gros ils sont comme nous, ils savent pas très bien comment ça va se passer. C'est-à-dire il y a quelque chose sur laquelle il y a plus tellement d'incertitudes, c'est le 5 décembre. Ça, ils savent que le métro parisien sera bloqué, que la RATP a une immense, enfin que les syndicats de la RATP ont une grosse capacité de nuisance. Est-ce que ça va prendre à la SNCF? C'est pas sûr parce qu'à la SNCF on sait qu'il y a du mécontentement, mais à la SNCF les cheminots ils ont perdu plein de journées de salaire la semaine dernière en faisant grève.
Oui, ça fait mal ça.
Voilà, pour ne rien obtenir du tout. Un haut personnage de l'État à qui je disais mais il va y avoir contagion me disait mais pourquoi voulez-vous qu'une caissière de supermarché qui elle aussi bosse parfois jusqu'à 22 heures et qui va partir à 65 ans aille se mobiliser pour qu'un cheminot garde le droit de partir à 52 ans. C'est pas faux mais c'est en même temps pour se rassurer. Donc ils savent pas trop, mais c'est vrai qu'ils ont peur, et vous avez raison, ils demandent à tout le monde de déminer. Il y a cette histoire d'étudiant qui est arrivée, parce que pour le coup, il y a eu cette immolation, événement tragique que personne ne pouvait prévoir.
Et déjà un ministre à la manœuvre.
Voilà, il se trouve que Frédéric Vidal est dans l'Antarctique, ce qui n'est quand même pas de chance, et donc le Premier ministre a appelé Gabriel Attal pour lui dire, maintenant, il faut les recevoir d'urgence.
Véronique Grelsoult, dans votre machine infernale d'Ansou, ça bouillonne? Vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mobilisation tous azimuts?
Alors, mobilisation du gouvernement, oui, et des politiques, oui, on le voit bien, ils s'expriment, voilà. De la population, oui. On voit bien aussi que les internautes et les Français, globalement, ne savent pas non plus ce qui va se passer le 5, mais il y a une forme de gronde qui monte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on constate, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer, même les gens qui n'ont pas envie de changer, et que c'est un peu comme dans les entreprises, c'est-à-dire que la transformation, elle ne peut se faire qu'avec les gens. Et donc, le déminage, c'est pas forcément non plus une façon pour faire... Pour embarquer les gens, il faut, et la pédagogie, non plus pas parce que je vous ai expliqué quelque chose que vous allez être d'accord avec moi. Déjà, si vous l'avez compris, c'est une chose, mais il faut pouvoir y adhérer, donc y trouver votre place, comprendre pourquoi. Et en fait, ce travail-là, ben, on voit bien qu'il n'est pas si clair que ça et que chacun regarde, là, c'est assez classique, à l'aune de son histoire personnelle et il y a peu de réponses personnelles.
Olivier Perrou, vous n'êtes pas allé un peu vite en besogne tout à l'heure en nous disant le 5 décembre, ça va être...
Moi, je ne fais que vous répéter les craintes qui me sont répétées et par les députés et bien par les ministres. Mais on parle de peur et je pense aussi qu'il faut parler de contrariété d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, c'est son ADN, c'est l'ADN du candidat Macron qui est totalement chamboulé. L'ADN du réformateur. Il a dit en 2017, j'arrive là et je vais réformer la France vite et fort. Aujourd'hui, on lui demande de changer, mais on lui demande d'y aller calmement, justement, pour pas brusquer. Et le problème...
Il a quand même dit qu'il allait continuer les réformes, tout à l'heure.
Oui, mais est-ce qu'il en a les capacités politiques? Là, il y a une vraie question et je pense pas.
Allez, 20h40 sur France Info. On va faire un petit détour par Lyon. Vous allez voir, il se passe des choses là-bas, dans la capitale des Gaules. J'ai dit une bêtise, non. 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Steven Gualier.
Les Bleus peuvent jouer libérés. Coup d'envoi de France-Moldavie dans 5 minutes au Stade de France avec une qualification pour l'Euro déjà acquise suite au match nul entre la Turquie et l'Islande tout à l'heure. Un plan d'urgence pour l'hôpital, promesse d'Emmanuel Macron en déplacement dans la Marne. Plan dévoilé mercredi prochain par le Premier ministre Édouard Philippe. Déclaration en réponse à la colère des personnels hospitaliers. Environ 10 000 personnes ont par exemple défilé à Paris pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital public. C'est une première étape, un pas essentiel. Réaction sur France Info de maître Fabien Rajon, avocat des parents de Louis, né en 2012, sans doigt à la main droite, après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Marseille pour mise en danger de la vie d'autrui. Le président chinois hausse le ton contre les manifestants hongkongais. Les mobilisations menacent de remettre en cause le principe même d'autonomie du territoire, prévient Xi Jinping, au quatrième jour de blocage initié par des manifestants pro-démocratie. Les obsèques de Raymond Poulidor se dérouleront mardi prochain. Dernier hommage à Poupou, à Saint-Léonard de Nobla, lors d'une cérémonie dans la collégiale à 10h. Les admirateurs pourront venir déposer des fleurs ou encore des plaques.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Un fauteuil pour deux, c'est jamais très bon dans les campagnes électorales. Pour l'instant, c'est avantage Gérard Collomb, crédité le maire de Lyon, de 31% au premier tour de l'élection à venir, municipal à Lyon, face à son challenger. C'est le patron de la métropole, David Kimmelfeld, qui lui ne serait crédité que de 15%. Et entre les deux, intercalé 19 points, l'écologiste Bruno Bernard. C'est le résultat, l'un des résultats de notre sondage Ipsos Sopras Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès, Nathalie Moret. Donc une enquête qui est censée peut-être nous donner un éclairage assez précis sur ce qui se passe à Lyon. Tout d'abord, la parole à Gérard Collomb qui a laissé la porte ouverte à son dauphin. C'était ce matin en direct de Lyon, donc avec Frédéric Carbone sur France Info.
J'ai toujours dit que la porte était ouverte et que je souhaitais le rassemblement. Le rassemblement, on voit qu'il se fait dans l'esprit des Lyonnais, puisque ce qui peut-être me frappe le plus dans ce sondage, c'est que 61% des Lyonnais, mais des métropolitains, aient une bonne opinion de moi. Ça veut dire que le travail que nous avons mené depuis maintenant quelques années, eh bien, paye. Les gens voient changer leur vie quotidienne dans toutes leurs communes. Je pense que les écologistes vont vouloir mener leur combat parce que c'est eux qui, effectivement, aujourd'hui, occupent la deuxième position. Et on voit bien que David Kimmelfeld est loin derrière les écologistes.
On va entendre David Kimmelfeld dans un court instant. Nathalie Moret, il s'était accroché au départ en revenant à Lyon et puis finalement ça se passe pas si mal pour lui, pour Gérard Collomb.
Ah ben là, clairement, on voit dans ce sondage qu'il n'y a pas du tout de rejet du maire sortant. Hein. Il a pourtant 72 ans, pardon de le répéter. Il est maire depuis 2001. Beaucoup se disaient que peut-être il allait faire le mandat de trop dans la mesure où David Kimmelfeld avait pris la métropole et que ça se passe bien. Objectivement, c'est quelqu'un qui est dans un beau dynamisme, qui a beaucoup de relations plutôt assez franches et directes avec le monde économique dont il est apprécié. Et tout le monde se disait, bon ben voilà... Enfin, tout le monde, un certain nombre de personnes pensaient que peut-être Gérard Collomb allait décrocher. Pas du tout. On voit qu'il est très, très implanté et qu'il est, il plie le match, clairement.
C'est un duel qui passionne nos téléspectateurs, nos auditeurs lyonnais.
Il y a un bémol là-dessus. C'est qu'il y a 53%, et ça, je trouve que c'est un chiffre intéressant dans l'enquête. Il y a 53% des gens qui ignorent qu'il y a une élection à la métropole. Parce que je rappelle qu'il y aura deux votes au mois de mars. Les gens de Lyon et des alentours mettront un bulletin pour le maire, donc Lyon, Villeurbanne, etc., et un bulletin pour le président de la métropole. Et le vrai combat qu'ont amené les candidats, c'est de dire qu'il y a deux élections et qu'il y aura deux personnalités élues.
Véronique Reilsoult, dans cette affaire, au fond, Gérard Collomb bénéficie d'une plus forte notoriété, j'imagine, auprès des électeurs.
C'est clairement une prime à la notoriété. C'est, voilà, Gérard Collomb, tout le monde le connaît. Donc après, on pourrait le connaître et le rejeter. Il est a priori pas rejeté, mais c'est clairement une prime à la notoriété. Et le sujet de la métropole dont vous parlez, effectivement, peu le savent. En revanche, ceux qui ont compris font une forte information autour d'un sujet qui est, c'est la première fois en France qu'un président de métropole sera élu au suffrage universel. Ouais. Ça va vraiment changer la donne. Donc c'est un sujet qui passionne, que peu de Lyonnais commentent. En revanche, ceux qui commentent sont très impliqués sur le sujet. Et là, pour le coup, voilà, ouais. Y a encore pas mal de boulot à faire parce que c'est pas tant une question de personne que de cette nouvelle fonction, cette nouvelle façon de fonctionner qui est très particulière et qui va servir de laboratoire pour toute la France.
Alors 90% des habitants du Grand Lyon connaissent ne serait-ce que de nom Gérard Collomb. Ils ne sont en revanche que 37%, c'est pas beaucoup, avoir déjà entendu parler de David Kimmelfeld, le patron de la métropole toujours en place, qui maintient sa candidature. Il nous l'a dit tout à l'heure dans le 18:50 France Info en direct des locaux de Radio France, du bureau de Radio France à Lyon.
On n'est pas dans une machine à perdre. On est, moi, je présente un projet qui n'est pas du tout celui de Gérard Collomb. Donc, pourquoi m'effacer alors que mon projet est complètement différent? L'ambition n'est pas la même. Vous savez, sur l'engagement écologique, Gérard Collomb souhaite un engagement écologique qui se résume souvent à mettre, par exemple, des plantes, des pots de fleurs dans une rue. Moi, c'est la zone de faible émission. C'est un certain nombre d'engagements extrêmement forts sur le chauffage urbain. Je n'ai pas le même parcours. Je suis un ancien chef d'entreprise. Et donc, c'est pas une machine à perdre. Ce sont des projets qui sont, et nous le verrons dans les semaines qui viennent, complètement différent, une manière aussi de gouverner de manière différente. Je ne crois pas, moi, à la vision d'un seul homme, je crois à une ambition partagée. Et c'est ce qui me motive et ce qui motive celles et ceux qui sont autour de moi et qui sont nombreux.
Les pots de fleurs risquent de voler à Lyon, Gilles Bernstein. Hein,
on sent que le duel fratricide va être pas tellement fratricide finalement. On sent que ça va être chaud. Moi, je ne connais pas grand-chose. Je suis un Parisien. Hein, je ne connais pas grand-chose à la situation.
Sur le principe, c'est
voilà.
C'est
un souci. Trouve que on dit qu'Emmanuel Macron s'occupe assez mal des municipales, que ça le passionne, mais qu'il s'en occupe mal. Là, il s'en est occupé. Il a choisi Gérard Collomb. Et manifestement, il a eu raison. Donc on comprend pas très bien pourquoi il ne fait pas pareil à Paris, pourquoi il ne fait pas pareil à Marseille, parce qu'il laisse perdurer des situations très problématiques pour son parti, alors que voilà, quand il prend position, après tout, c'est assez normal qu'il décide de qui est candidat. Là, il a choisi, et ça se passe bien. Deuxième remarque, la fracturation de la droite, c'est pas fini, parce que quand même, Lyon, c'est vraiment une ville de droite. Raymond Barre, Michel Noir, Édouard Herriot, qui était radical, mais enfin, qui était pas franchement de gauche, qui est la grande figure lyonnaise, c'était vraiment une ville de droite. Et là, dans le sondage, on ne parle même plus de la droite. C'est dire à quel point Emmanuel Macron a réussi à la fracturer. Et c'est
Jean-Noël
aussi
Buffet, candidat à 14%.
Hein, voilà. Ça. Et c'est dire aussi à quel point Laurent Wauquiez n'a pas réussi sa mainmise sur la droite lyonnaise.
Oui, un rapide tour de table encore, Olivier Perroux, machine à perdre, hein, quand même, hein. Même si David Kimmelfeld le nie. Hein.
Mais globalement, si vous regardez la carte des municipales, La République En Marche, sur les municipales, est une machine à perdre. Pourquoi ? Parce que son ADN même est un entrechoquement de quelque chose de très vertical. Paris, Lyon, Marseille, on veut savoir ce que pense le président de la République. D'un autre côté, on a des réminiscences du Parti Socialiste où les mouvements locaux ont beaucoup d'influence. C'est eux qui soutiennent, c'est le mouvement local de Lyon qui soutient David Kimmelfeld. Donc finalement, on a un peu un entrechoquement de verticalité macronienne où on veut savoir ce que veut décider le président et des anciens socialistes qui veulent « Oui mais non, regardez, écoutez ce que veut faire le comité, c'est important, le projet. »
Nathalie Moret, pour poursuivre ce qui est dit là, étonnant ce Bruno Bernard, candidat qui est peu connu, 7% de notoriété qui arrive largement en deuxième position, 19%.
Ouais, c'est une métropole, c'est une grande ville, et comme à Paris, comme à Bordeaux, où aussi le candidat écologiste arrive, est très très bien placé, on voit bien que l'écologie, c'est pas quelque chose qui va faire pchit, et c'est quelque chose qui est sur la durée.
Comment ça va se terminer, ce duel au couteau entre,
moi je crois que là, aujourd'hui, avec le sondage qu'on publie, clairement aujourd'hui, la lutte, elle est pour la deuxième place. Celui qui arrivera en deuxième position, que ce soit l'écologiste ou David Kimmelfeld, puisque c'est entre les deux que ça se joue actuellement, aura les possibilités de travailler à une fusion pour aller contre Gérard Collomb au second tour. C'est ça qui va se jouer.
Ça va laisser des traces, Nathalie Moret.
Ah bah oui, il y en a déjà. Je vous signale qu'il y a une partie du conseil municipal de Gérard Collomb qui a créé un groupe. Hein. Gérard Collomb, en partant à Paris, il avait laissé la mairie à Georges Képénékian et la métropole à Kimmelfeld. Les deux aujourd'hui se ligue contre lui.
Olivier Perroux.
Est-ce que finalement la meilleure des places, c'est pas cette troisième place de faiseur de roi où David Kimmelfeld va pouvoir choisir au deuxième tour.
Je suis pas sûr qu'il le pense comme ça, vous voyez.
La première, c'est pas mal aussi comme place.
C'est pas mal,
je pense que la première place, c'est pas mal.
je suis pas sûr qu'il se voit comme ça.
Ce qui vraiment m'interpelle, c'est cette place des Verts, parce que j'ai lu récemment qu'on a tous été surpris par le score de Yannick Jadot, qui a fait quoi, 17, 15, 17, 13
13%.
Et que à peu près dans toutes les grandes villes, la moyenne, les candidats verts totalement inconnus sont en gros 10 points au-dessus du score de Jadot dans la ville. Donc ça fait des scores au-dessus de 20 points dans énormément de villes, pour des gens encore une fois complètement inconnus. Il y a vraiment un sujet sur les verts avec les municipales.
En tous les cas, passionnant sondage dans le cadre du bus des municipales de France Info, Ipsos Soprasaria, France Info, France Bleu et Le Progrès de Lyon. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Steven Gualier.
Soignants, épuisés, patients, en danger du flouze pour nos blouses. Quelques messages brandis cet après-midi dans les rues des grandes villes par les personnels hospitaliers. En déplacement dans la Marne, Emmanuel Macron annonce un plan d'urgence conséquent dévoilé mercredi prochain. Le budget de la sécurité sociale pour 2020 rejeté par le Sénat. Un vote pour protester contre, je cite, un mépris d'Emmanuel Macron pour l'hôpital après cette annonce. Le texte reviendra vers la Chambre haute après un nouveau passage à l'Assemblée nationale. La deuxième était la bonne. Feu vert des députés européens à la candidature de Thierry Breton au poste de commissaire au marché intérieur après une audition de près de 3 heures. Validation qui avait échappé à Sylvie Goulard. 7 départements placés en vigilance orange, neige-verglas par Météo France, de la Saône-et-Loire à la Drôme en passant par l'Isère. Des chutes de neige très importantes pour la saison sont attendues dans ces départements.
Le Goncourt des lycéens pour Karine Thuil, nouvelle récompense pour le roman Les choses humaines après le prix Interallié hier, une histoire judiciaire où s'entremêlent les questions de pouvoir, de sexe et de médias.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, Steven Gouallier a fait le job. Ça passe donc pour Thierry et Breton à Bruxelles. Ça passe, c'est passé limite la dernière fois. Là, c'était vraisemblablement, c'est passé mieux. Sans doute soulagé, on écoute ses propos.
Quand on a eu plusieurs vies en une vie, et que l'on peut se présenter devant vous, ici et aujourd'hui, c'est que la notion de conflit d'intérêts et d'éthique est un sujet que l'on porte au plus profond de soi. Sur ce point précis, je n'irai pas par quatre chemins. Il n'y a qu'une solution, être radical, je dis bien radical, avec toujours le seul intérêt général en tête, exclusivement, uniquement, en toute indépendance.
Oui, merci pour les micros. Nathalie Moret, finalement, il était temps pour Emmanuel Macron de régler ce problème à Bruxelles.
Je pense qu'il est très très soulagé, Emmanuel Macron, hein. C'est quand même un problème de moins, hein. Il a quand même passé le vote qui a eu lieu en début de semaine là au niveau de la commission, c'était 11 voix contre 12, donc c'était passé juste
de justesse.
Donc là effectivement il doit soulager. Puis Thierry Breton, effectivement, d'après ce que me dit mon collègue Francis Brochet qui a suivi son audition cet après-midi, il me dit qu'il a effectivement évité tous les écueils par lesquels était passé Sylvie Goulard. Il a été plus rond, il a été moins cassant, il a été moins arrogant. Et je pense que ça aussi, c'était quelque chose, un positionnement en tous les cas, qui était très attendu de la part du candidat français.
Véronique Rensoult, les Français vont redécouvrir Thierry Breton.
Vont clairement le redécouvrir. Et d'abord, ils sont ce soir plutôt globalement satisfaits du fait qu'il a
ils ont un avis.
Ouais.
Les Français ont un avis sur la nomination de Thierry Breton.
Non, mais allez voir. Entre autres sur Facebook, il y a des tas de gens qui ont décrypté sa vie, son histoire, son parcours.
Un patron qui a réussi à la tête d'Atos.
Un patron qui a réussi. Oui. Il y a beaucoup de sujets autour de la mécanique quantique et de Monsieur Breton sur Facebook. Donc, je vous invite à aller regarder. Oui. Les gens sont intéressés
c'est
à
son
profil.
C'est le nouveau monde, hein, Gilles Bernstein.
et l'autre point, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont vu des passages, visiblement, et qui ont trouvé qu'il était assez humble.
Il a parlé plusieurs langues et tout ça. En même temps, voilà.
Donc, bien sûr, il y a aussi une polémique avec Amorce, mais elle est beaucoup moins forte qu'au moment de l'annonce de sa candidature. Là, ce soir, c'était plutôt des gens qui sont réjouis. Et puis, ils ont pris le temps, je vous assure, découvrir qui est ce nouveau commissaire.
Et Gilles Bernstein, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au fond, il est au fait de ce qu'est le numérique et le 21e siècle, même.
Oui. Enfin, d'abord, c'est vraiment pour Emmanuel Macron des sujets où il n'y a rien à gagner, mais tout à perdre. C'est-à-dire que je suis très content de ce que dit Véronique, même si ça m'étonne. Mais je pense pas que ce soir, dans les familles françaises, on va dire « Roger,
non,
tu te rends compte, c'est génial !»
Je vous ai pas dit que tous les Français allaient tirer de ce sujet.
A été, tu te rends compte, c'est une grande victoire pour Macron. Je pense que tout le monde... Enfin, le fait qu'il ait été confirmé, tout le monde s'en fout. Mais en revanche, s'il avait été blackboulé, là, de fait,
on en aurait parlé au début de l'émission.
Ça aurait été une catastrophe pour Macron. Catastrophe évitée. Maintenant, sur Thierry Breton, moi, je ne connais pas ce monsieur. J'ai toujours entendu dire qu'il était assez efficace, assez bon, pas très sympathique dans les relations de travail, qu'il est assez dur à travailler. Et pour le coup, moi aussi j'ai lu et j'ai l'impression que sur les problèmes d'éthique, et on peut faire confiance au Parlement européen pour avoir tout décortiqué, que sur les problèmes... Il a gagné énormément d'argent dans sa vie, mais il a beaucoup réussi. Mais que sur les problèmes d'éthique, il s'est toujours extrêmement bien comporté.
Oui, c'est une
comporté.
Personnalité voilà. qui donc, connaît le monde de l'entreprise. C'est un grand patron français qui a réussi. Olivier Perroux, je ne sais pas ce qu'en pense Roger qui nous écoute ce soir, mais c'est plutôt, pour le coup, ouf, ça passe. Hein.
Ben oui, et puis quelque part, tout ça pour ça, en fait. Parce que finalement, si Emmanuel Macron avait écouté les François Bayrou, les Édouard Philippe, tous ces gens qui lui ont dit que peut-être Sylvie Goulard, c'était pas une bonne idée, eh ben, il se serait mis des difficultés en moins. Et là, on a vu que, bon, certes, le vote en début de semaine à une voix, c'était, le vote en début de semaine à une voix, c'était un peu tendu, mais là, c'est passé largement devant les parlementaires européens. Donc, il s'est mis des difficultés tout seul, Emmanuel Macron. Thierry Breton était un choix, finalement, qui était assez clair. Et je pense que dès que son nom a été posé sur la table, tout le monde a dit, ah bah oui. Bah oui, mais il fallait y penser avant.
Et puis il y a le sujet auquel vous aurez échappé ce soir. Hein. Pendant ce temps, la Commission européenne qui ouvre une procédure juridique contre la Grande-Bretagne qui a décidé de ne pas désigner de commissaire pour le futur exécutif européen censé entrer en fonction le 1er décembre. Tiens, restez avec nous, Olivier Perroux. Vous avez une vision, une explication sur ce qui se passe. C'est encore le feuilleton du Brexit.
Hein. C'est le feuilleton du Brexit. Et puis, c'est une décision un peu lunaire parce que finalement, les commissaires les Britanniques peuvent quitter dès 2020 le Parlement européen. Donc, on ne comprend pas vraiment cette décision et ça montre encore une fois que la bureaucratie européenne est quelque chose un peu brouillon et que personne et que Roger ne va pas comprendre.
Roger, effectivement, s'il en parle ce soir, il va dire que c'est absolument n'importe quoi.
Je suis content.
Donc, il va dire que c'est absolument n'importe quoi s'il en parle. Effectivement,
je suis pas sûr qu'il en parle.
Alors.
C'est tellement incompréhensible que.
Mais de ce point de vue-là, Breton peut être un élément un peu nouveau parce que effectivement, c'est pas un technocrate. Enfin, il parle pas, il a pas fait Bruxelles première langue, et donc peut-être qu'il va contribuer à changer un petit peu tout ça.
Il est aussi un homme politique. Avec vous, Nathalie Moret, quelle est la une des journaux du groupe EBRA demain?
Alors demain, on fait un grand sujet sur le malaise étudiant, puisque je vous rappelle que le jeune homme qui s'est immolé et qui est entre la vie et la mort, c'était à Lyon.
Avec vous, Olivier Perroux, qu'y a-t-il à la une du Point?
Une grande interview avec la personnalité de l'année pour le Point, Margaret Vestager. Il y a une très bonne enquête de Géraldine Vosner sur Ségolène Royal, qui a regardé un peu cette coquille vide qui est sa fondation, Désir d'avenir, et il y a beaucoup de choses.
Enquête donc sur Ségolène Royal dans les pages du Point. Merci à vous, Véronique Reilsoult. Je rappelle, notre enquête au Doxa d'Anso Consulting, France Info, Le Figaro, à retrouver sur le site de franceinfo.fr. Nathalie Moret, Olivier Perroux et Gilles Bornstein, merci d'avoir été les invités désinformés ce soir. On se retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition sur France Info. Bonne soirée.